Nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, les 9 premiers versets. Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala part vers la tombe. Il fait encore nuit. Il y avait une grosse pierre à l'entrée et Marie voit qu'on l'a enlevée. Oui, une grosse pierre et on l'a enlevée. Alors elle part en courant. Elle va trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de la tombe et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple partent, ils vont vers la tombe. Ils courent tous les deux ensemble, mais l'autre disciple court plus vite que Pierre et il arrive le premier à la tombe. Il se penche. Il voit les bandes de tissu posées par terre, mais il n'entre pas. Simon-Pierre arrive après lui. Il entre dans la tombe, il regarde les bandes de tissu posées par terre. Il regarde aussi le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Ce linge n'est pas posé avec les bandes de tissu, il est enroulé à part, à un autre endroit. Alors l'autre disciple, celui qui est arrivé le premier, entre lui aussi. Il voit et il croit. En effet, les disciples n'avaient pas encore compris ce que les livres saints annonçaient. Jésus doit se relever de la mort. Chères sœurs et frères, nous vivons, il me semble, dans un monde à la fois rationnel et irrationnel. Un monde qui se veut rationnel, scientifique, et qui est parfois dépassé par ses propres logiques. Nous pouvons penser que tout devrait être aisément expliqué, car nous avons accès aujourd'hui à des techniques qui étaient encore inconnues il y a quelques décennies. Et pourtant, comme vous le diront les meilleurs manuels de management, il faut toujours compter avec le facteur humain qui a tendance à tout embrouiller. Chacune, chacun interprète les événements à sa façon et réagit en conséquence, au point qu'une même situation peut être porteuse de vie, source d'enthousiasme pour une personne, ou être reçue par une autre dans l'apathie, l'indifférence, voire l'hostilité, l'incompréhension. Dans le texte que nous avons lu, l'évangéliste Jean nous invite à graviter, chacune, chacun, à notre façon, autour d'un même événement, le tombeau vide. Trois personnes, trois amis de Jésus, Pierre, Marie-Madeleine et le disciple que Jésus aimait, découvrent une absence, celle du corps de Jésus. Les réactions des trois disciples sont très différentes. Nous pouvons sans doute nous demander pourquoi l'évangéliste décrit autant les comportements des uns et des autres, alors qu'en réalité il n'y a qu'un événement à signaler, le tombeau est vide, le Christ n'est plus parmi les morts. Pierre d'abord observe et ne dit rien. Et sur lui, rien n'est dit. Peut-être que Pierre se méfie des mots. Lui qui s'était promis d'être avec Jésus jusqu'au bout, qui s'en était vanté devant tout le monde, qui a coupé, dans un élan de bravoure, l'oreille d'un garde, et qui ensuite s'est retrouvé à le renier trois fois avant la croix. Peut-être que Pierre a décidé de tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, comme nous le recommandaient nos grands-mères ou arrière-grands-mères. Peut-être que simplement écrasé par son sentiment de culpabilité, il ne peut accueillir tout de suite la possibilité d'une deuxième chance, d'un nouveau départ, même après la mort. Pierre entre dans le tombeau, constate l'absence du corps, puis revient chez lui. C'est tout. C'est beaucoup puisqu'il a couru pour constater de ses yeux le tombeau vide. Ça n'est pas assez, parce qu'il a beau entrer dans le tombeau, regarder partout, constater la présence des bandes de tissu, cela ne parle pas à son cœur. Il est avide de savoir, puisqu'il rentre dans le tombeau, puisqu'il remarque les différents tas de linge funéraire, mais cette soif de savoir ne lui sert finalement à rien. Il repart comme il est venu. Il reste ancré dans un constat, le constat d'une absence. Il n'arrive pas à pressentir que cette absence n'est qu'une promesse d'une présence ailleurs. Que les bandes de tissu par terre sont le signe que la vie, la vraie, est passée par là, qu'elle a terrassé la mort. Pierre entre dans le tombeau. Il reste perplexe dans ce qu'il voit. Il n'arrive pas à voir plus loin. Il n'arrive pas à interpréter, pas pour l'instant. Notre société peut-être serait fière de lui. Pierre ne tire pas de conclusions précipitées. Il s'intéresse uniquement aux faits, ne fait pas d'interprétation. Et si on lui demandait un récit de ce qu'il a vu, il ferait probablement une description précise du tombeau, du vide, des bandelettes, de leur position sur le sol. Il expliquerait peut-être sa surprise et voudrait donner une explication rationnelle. Oui, mais à force de décrire uniquement les faits, à force d'être, si vous me permettez, le nez dans le guidon, de ne pas prendre de distance par rapport à ce qu'on voit, on est happé, fasciné, et on reste perplexe face à notre propre vie, sans en dégager le sens. Sans pouvoir s'émouvoir, sans prendre la situation à bras le corps pour se demander « Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Quel sens cela a pour moi ?» Si nous n'y prenons pas garde, toute notre énergie, tout notre enthousiasme s'émousse dans l'observation, dans l'objectivité froide. Rien n'advient, même au cœur de l'événement le plus extraordinaire. Pouvons-nous encore nous laisser toucher ? Après Pierre, il y a le disciple que Jésus aimait, que la tradition a appelé Jean et que les exégètes appellent parfois, donnent parfois un petit surnom, le DBA, le disciple bien-aimé. Il a couru lui aussi vers le tombeau et plus jeune que Pierre, il est arrivé avant. Il a regardé à l'intérieur, mais marquant un temps d'arrêt, il n'est pas entré. Pourquoi ? Certains chercheurs disent que Jean marquait ainsi son respect envers Pierre, son aîné, qui avait souvent rempli le rôle de porte-parole des disciples. Peut-être qu'il y a une autre explication. Peut-être que Jean n'est pas entré car il avait besoin d'un temps pour lui, pour réfléchir, pour accueillir. Un temps où, ayant deviné cette absence de corps, il a pu se demander ce que cela voulait bien dire. Un temps où il a cherché une explication, une piste à explorer, un élément qui donnerait du sens à ce qu'il a entreaperçu, ce tombeau vide. Jean est donc resté sur le seuil du tombeau vide. Nous sommes parfois nous-mêmes invités à rester au seuil de notre propre vie. Nous sommes invités à prendre de la distance, à réfléchir quand un événement marquant vient nous bouleverser, à attendre. Et c'est dans cette attente souvent que le sens de ce qu'on vit se dégage peu à peu. C'est dans cette attente, même brève, que nous pouvons voir plus loin. Attendre, prendre un temps d'arrêt, un temps de pause dans notre vie pour se laisser la possibilité de croire. Car comment croire ? Comment devenir croyant ou croyante si nous ne faisons que courir ? S'arrêter un instant pour pouvoir aller plus loin, Tout un paradoxe, tout un défi. Dans une société qui va toujours plus vite, et peut-être en avons-nous l'impression de moins en moins loin. Ou à force d'aller vite, on peut être tenté de rester dans le superficiel. Quand il entre dans le tombeau, après avoir marqué ce temps de pause, Jean est prêt. Prêt à voir au-delà du visible. Son regard ne s'attache pas au tissu, comme Pierre, à analyser la scène. Jean réussit à avoir la vision globale de celui qui a su prendre un temps d'arrêt, de pause, de réflexion dans sa vie. Cette vision globale amène à voir dans le visible, l'invisible, dans le concret, des signes qui permettent de s'ouvrir au spirituel. Faire le grand écart entre le tombeau vide et la foi dans la résurrection n'est possible que si l'on s'est arrêté, si l'on s'est ressourcé, si l'on a cherché dans les Écritures, dans les textes qui font sens, les promesses d'une mort vaincue à jamais. Parce qu'il a su s'arrêter, à ce moment-là, l'apôtre Jean voit plus loin. Il a un regard qui traverse les murs. Son regard ouvre même dans les situations les plus fermées. Il voit et il croit. Son regard fait du tombeau, d'un lieu marqué par la mort, un espace ouvert à la confiance et à l'espérance. Et vous me direz peut-être, Pierre, Jean et Marie dans tout ça. Marie de Magdala, dont on parle très peu. Elle ne parvient pas jusqu'à l'entrée du tombeau. Elle ne voit pas l'intérieur du tombeau vide. Parce qu'elle, elle a compris avant. Elle a saisi les implications dès qu'elle voit de loin que la pierre à l'entrée est roulée. Qu'auriez-vous fait? Qu'aurions-nous fait? Bien sûr, elle a peur. Bien sûr, elle va chercher du renfort. Il vaut mieux ne pas être isolée, avoir une personne qui nous couvre dans ce genre de cas étrange. Donc elle va chercher les disciples. Et puis on ne parle plus d'elle. Et la question de Marie, c'est où est Jésus? Elle dit, nous ne savons pas où on l'a mis. Et je vous invite, si vous avez une Bible chez vous, à lire la suite du chapitre 20 de l'Évangile de Jean, car c'est bien à elle que Jésus va s'adresser en tout premier. Pierre a vu le vide, il n'a pas compris tout de suite. Il ne s'est pas exprimé, il est resté perplexe, comme il l'a déjà fait dans un certain nombre de ces situations. Jean a vu, a cru, le disciple exemplaire, parfait, qu'il voit les signes prévus et la foi s'exprime. Marie, elle, laisse la tristesse et la peur s'exprimer d'abord. Et c'est elle que Jésus ressuscité va venir rencontrer. C'est à elle, Marie, la première au tombeau, bien avant la course des disciples, que Jésus va apporter son message, va confirmer qu'il est bel et bien vivant, contre toute attente, et quelle vie. Oui, Marie était là. Elle était discrète, elle a laissé s'exprimer ses émotions, elle a accepté de se laisser toucher par cette relation à Jésus. Et c'est elle qui va de nouveau recevoir son appel. Alors aujourd'hui, quels disciples sommes-nous? Comme Pierre, avons-nous du mal à ressentir ce qui sort de la logique physique, palpable, compréhensible? Comme Jean, saisissons-nous la véritable portée d'une absence qui ne devrait pas être? Ou comme Marie, prenons-nous le temps d'exprimer nos émotions au risque de recevoir un nouvel appel? Dans tous les cas, la foi que nous pouvons exprimer n'est pas l'assurance qu'on ne rencontrera pas de difficultés dans notre vie. La foi n'est pas une assurance vie. La foi dans la résurrection, c'est autre chose, c'est l'assurance d'une présence aimante, vivante, chaque jour dans notre vie, d'un amour infini qui ne nous abandonnera pas, car cet amour-là a été vainqueur de la mort, des humiliations, du rejet. C'est une présence fidèle, celle de Dieu, à nos côtés jusqu'à la fin du monde. Le chemin de la foi suppose de ralentir, de prendre de la hauteur, de voir au-delà de l'invisible, au-delà de l'absence, chacune, chacun, à son rythme. La foi suppose, si je puis dire, un regard passe-muraille. Prenons toutes et tous de nouvelles lunettes pour voir à travers les murs. Oui, que l'Esprit du Seigneur ouvre nos yeux à ses signes et à sa lumière. Amen.